France Inter.
Bonsoir Fabienne Zantès.
Bonsoir Marie, salut Marine et à très vite. Pour nous c'est parti comme chaque soir, le 18-20, ravi de vous retrouver, soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Bonsoir Céline Asselot.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, comment aider les victimes d'abus sexuels dans l'église catholique?
Oui, c'est toute la question pour l'organisme qui indemnise les victimes, car l'argent ne fait pas tout. L'année 2023 a été marquée par l'essor des démarches restauratives, explications et témoignages au début de ce journal.
Et les autres titres Céline?
Les patrons soulagés après l'avis rendu par le Conseil d'État sur le calcul des congés payés pendant les arrêts maladie. On va y revenir. Une émission des sanctions et une grande audition. On parlera de Cyril Hanouna face aux députés, invités à s'expliquer sur les polémiques de Touche pas à mon poste. Des milliers de kilomètres de lignes électriques à rénover à travers la France. RTE vient de présenter un grand plan de modernisation de 100 milliards d'euros.
Et on en parle avec Xavier Piechazik, c'est le patron de RTE qui sera l'invité de ce journal.
Et on ira aussi à Lyon, dans ce journal qui organise ce soir sa nuit de la solidarité. Les bénévoles vont recenser les sans-abri et puis on ira aussi dans le Périgord où les fraises ne mûrissent pas assez vite. La faute, on le verra, la météo trop pluvieuse de ces dernières semaines.
Et dans le 18-20, ce soir, il y a Diana Filipova qui est romancière, essayiste et russe, en tout cas née là-bas, venue en France en 93. Son identité malheureuse, dit-elle, comment l'effacer? C'est cette lutte-là que l'on raconte avec elle, alors que les Russes de Russie s'apprêtent, eux, à vivre à partir de demain des élections sans enjeu. Le reportage est en Côte d'Ivoire où, profitant de la bonne humeur de la CAN, le gouvernement rase des quartiers entiers. Vous verrez que le service militaire s'ouvre aux femmes au Danemark. Louise Baudet, dans Le Monde à 18h50, nous parle de cette réunion à Troyes, Macron, Scholz, Tusk, France, Allemagne et Pologne. Et puis la tech la première, le jeudi, c'est Stéphane Jourdain. Vous comprendrez pourquoi les Américains sont obsédés par TikTok. En deuxième heure, c'est le téléphone sonne, on parle de santé mentale des jeunes. Ce soir, ça va pas bien chez les jeunes depuis les confinements et on vous attend au standard.
France Inter.
2 ans et demi donc après la publication du rapport Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Église, 489 victimes ont été indemnisées.
Oui, c'est le chiffre publié tout à l'heure par l'Instance Nationale Indépendante de Reconnaissance et de Réparation, l'INIR, qui présentait son rapport annuel. 489 hommes et femmes qui ont été victimes d'abus sexuels dans les diocèses, dans les mouvements de jeunesse catholique, des faits qui remontent parfois à des dizaines d'années. Bonsoir Sébastien Sabiron.
Bonsoir.
Alors quand on parle de réparation, il ne s'agit pas seulement de réparation financière, ça va bien au-delà de la question de l'argent.
Oui, car l'argent n'est qu'une brique dans le processus de reconstruction, explique Francis Berthaud, un artiste peintre de 71 ans, violé par un prêtre alors qu'il était enfant de cœur à la maîtrise de Notre-Dame de Paris. Il a ouvert les yeux, dit-il, 50 ans plus tard.
D'abord, j'ai commencé à voir le lieu. Pendant des années, j'étais resté à la porte. Je n'avais pas compris que c'était moi qui étais à l'intérieur. Et là, tout d'un coup, je rentrais à l'intérieur et je voyais ce qui se passait. Alors, avec tous les détails des viols, c'est tellement inconcevable qu'on se demande si c'est vrai, quoi.
Lui aussi en est venu à douter de ses propres souvenirs qui ont ressurgi des années plus tard. Damien Metz, 65 ans, abusé à 7 ans lors d'une colonie de vacances.
Quand je me suis dit, il faut que je cherche ce qui se passe en moi, pourquoi j'avais ces flashs dans la tête, mes parents, mes frères et sœurs, tous me disaient non, ce que tu dis, c'est pas vrai, t'as jamais été en colonie de vacances.
À défaut de sa famille, aujourd'hui, l'Église a reconnu les faits et l'a indemnisé, une somme qu'il a immédiatement reversée à la protection de l'enfance.
C'est de l'argent sale. On me paye 57 ans d'une prestation, quoi. Ce que j'attendais le plus au départ, c'était que quelqu'un d'autre que mes proches puisse m'entendre et presque dire « je vous crois ». Maintenant, j'ai retrouvé ça. J'ai retrouvé de la dignité.
Et parmi les 900 victimes accompagnées et engagées dans une démarche restaurative, certains demandent une cérémonie mémorielle ou religieuse sur les lieux de leur agression, voire devant la tombe de leur prêtre agresseur.
Merci pour toutes ces précisions, Sébastien Sabiron. Un vote à l'unanimité, chose rare à l'Assemblée. Les députés ont adopté tout à l'heure en première lecture une proposition de loi visant à freiner la fast fashion. Ces vêtements pas chers et pas de très bonne qualité. Le texte prévoit une interdiction de la publicité pour la vente de vêtements à prix cassé et un malus environnemental renforcé pour les rendre moins attractifs. Le Conseil d'État, lui, a tranché. Il sera possible d'acquérir des congés payés, même lorsque l'on est en arrêt maladie, mais dans certaines limites qui semblent rassurer les organisations patronales. Bonsoir Maxime Debs.
Bonsoir.
C'est le gouvernement qui avait sollicité le Conseil d'État pour transposer une directive européenne.
Et pour ça, il faut bien se rendre compte que jusqu'ici en France, les absences dues à une maladie sans rapport avec le travail ne donnaient lieu à aucun jour de congé payé, ce qui, depuis des années, hérisse côté syndicat au titre qu'un salarié, même s'il existe des abus, ne choisit pas de tomber malade. Surtout, la France, vous l'avez dit, était à rebours d'une directive européenne de 2009 et devait se conformer au droit. Ce sera fait, mais en limitant les congés acquis en arrêt maladie à 4 semaines par an. Limite posée aussi quant au délai laissé aux salariés qui voudraient réclamer des indemnités au titre des congés perdus depuis 2009, date donc de la directive. Il ne sera pas possible de remonter plus de 3 ans en arrière. Ainsi en a donc décidé le Conseil d'État, de quoi soulager un peu les organisations patronales qui craignaient un retour sur les 15 dernières années. MEDEF et ces PME qui avaient chiffré le manque à gagner pour les entreprises à plusieurs milliards d'euros.
Maxime Debs du service économique et social de France Inter. Stéphane Plaza sera jugé pour violence sur 2 anciennes compagnes. C'est ce qu'annonce ce soir le parquet de Paris. L'animateur comparaîtra devant le tribunal correctionnel à la fin de l'été dans une enquête publiée par Mediapart. D'anciennes concubines avaient dénoncé des humiliations, menaces et violences. Ce que récuse Stéphane Plaza, il assurait il y a quelques mois sur les réseaux sociaux avoir, je cite, la conscience tranquille. Amélie Oudéa-Castéra mise en examen pour diffamation à l'encontre de Noël Le Graët. C'est l'ancien patron du football français qui avait porté plainte contre la ministre des Sports pour des propos tenus sur sa gestion de la fédération. C'est la Cour de justice de la République qui mène l'enquête, seule juridiction habilitée à juger les ministres dans l'exercice de leurs fonctions.
Emmanuel Macron, lui, s'exprimera sur l'Ukraine tout à l'heure sur le plateau de TF1 et de France 2.
Oui, interview présidentielle à 20h pour évoquer l'aide militaire apporté à l'Ukraine, la polémique aussi sur ses propos concernant un envoi de troupes au sol. La France qui doit faire plus comme les autres membres de l'OTAN. C'est ce que dit aujourd'hui le secrétaire général de l'Alliance Atlantique qui rappelle que l'Ukraine manque de munitions. L'armée ukrainienne multiplie en ce moment les attaques contre la Russie, incursions armées et raids aériens. À quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote en Russie, le scrutin devrait aboutir à une réélection triomphale de Vladimir Poutine. Mais cette élection est une farce, dit Volodymyr Zelensky, qui appelle la communauté internationale à en rejeter le résultat. En Espagne, c'est une loi très controversée qui vient d'être adoptée par les députés. Une loi qui offre l'amnistie aux élus indépendantistes qui avaient été poursuivis ou condamnés pour la tentative de sécession de la Catalogne. C'était en 2017. Cette loi avait été directement négociée par le Premier ministre socialiste, Pedro Sanchez, en échange du soutien des partis indépendantistes catalans aux élections de juillet dernier. La droite espagnole crie au scandale à Madrid. Précision de Mathieu de Taillac.
Une dernière fois, la gauche et les indépendantistes ont répété leurs arguments en faveur du texte. Patxi López, porte-parole des socialistes.
Aujourd'hui, nous allons voter la loi d'amnistie et nous allons fermer le cycle de décisions politiques que nous critiquons et qui nous ont laissé la Catalogne dans la situation que nous connaissons. 2 référendums illégaux, une déclaration unilatérale d'indépendance, la division sociale, une crispation grandissante, en définitive, l'affrontement entre les nôtres et les autres.
Des propos qui indignent le chef de l'opposition, le conservateur Alberto Núñez Feijóo.
Ne nous parlez pas de justice parce que vous voulez l'éviter. Ni de démocratie, vous liquidez la séparation des pouvoirs. Ni d'égalité, vous la liquidez par des privilèges. Et surtout, n'osez pas mentionner la réconciliation parce que cette loi divise l'Espagne en deux et divise la Catalogne en deux.
Un discours majoritaire en Espagne où même une partie de la gauche a du mal à concevoir que des politiques puissent pardonner à d'autres politiques. Mais un discours pour le principe. La loi a bien été votée par 178 voix pour et 172 contre. Après la navette parlementaire avec le Sénat, elle devrait entrer en vigueur fin mai ou début juin. Madrid, Mathieu de Taillac, France Inter.
Moderniser le réseau électrique français va coûter 100 milliards d'euros d'ici à 2040.
Oui, c'est en tout cas le calcul que vient de faire RTE. L'organisme qui gère le réseau vient de présenter son plan 100 milliards pour raccorder les éoliennes en mer, les nouveaux réacteurs nucléaires français ou encore remplacer les lignes électriques qui ont parfois plus de 70 ans.
Bonsoir Xavier Pietchagic.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du directoire de RTE. C'est vous qui transportez l'électricité. Dites-moi, 100 milliards d'euros, c'est quand même une sacrée somme. En 2019, on prévoyait 33 milliards d'ici à 2035. Alors j'imagine qu'on savait déjà que nos lignes étaient vétustes. Qu'est-ce qui fait passer l'addition de 33 à 100 milliards ?
Alors c'est parce qu'entre 2035 et 2040, la France a prévu de construire beaucoup de moyens de production. Depuis, il y a aussi des choses qui ont changé sur le coût des matières premières, mais surtout on se réindustrialise et c'est l'ensemble de ces paramètres qui font que lorsqu'on fait ce plan programme à 15 ans, on trouve un ordre de grandeur de l'ordre de 100 milliards, mais pour l'instant, donc, on n'en est qu'aux ordres de grandeur, et c'est pour ça qu'on lance une consultation maintenant, c'est pour essayer de voir comment est-ce qu'on optimise tout ça, comment est-ce qu'on mutualise tout ça. Il y a du travail à faire, mais c'est vrai que cet ordre de grandeur, dans nos premiers calculs, est bon.
Et bon, donc vous allez optimiser, mais on va pas descendre au-dessous des 100 milliards. C'est ce que je comprends quand je vous écoute, Xavier Pietchagic.
Si, c'est pour ça qu'on interroge qui veut participer, qu'on interroge l'écosystème industriel français, l'écosystème du monde de l'énergie. C'est pour ça qu'on interroge les territoires, parce qu'on sait bien qu'il va falloir qu'on priorise et qu'on mutualise.
Et qu'on sache, mais il faut... et qu'on sache aussi qui paye. On imagine bien que refaire un certain nombre de réseaux, un certain nombre de câbles, surtout pour que le réchauffement climatique qui est passé par là ne soit pas mortel, ça veut dire le vent, ça veut dire les inondations, etc. Est-ce que ça coûte éminemment plus cher que si on le refaisait, pardon de le dire comme ça, à l'ancienne ?
Oui, alors déjà, je veux dépassionner cette histoire de 100 milliards. C'est 100 milliards sur 15 ans, ça fait de l'ordre de 6 milliards d'euros par an. 6 milliards d'euros par an, c'est à comparer avec la facture du pétrole et du gaz que la France paye tous les ans. Et en 2022, c'était le pic. La France a payé 116 milliards d'euros sur une seule année sa facture d'hydrocarbures. Mmh. Donc il faut bien rappeler que c'est de l'ordre de 100 milliards. Sur 15 ans, et c'est pas 100 milliards par an.
On vous entend, Monsieur Pietchagic, et j'entends effectivement que vous imaginez, comme tout le monde, effectivement, cette somme de 100 milliards a quand même sonné à nos oreilles. Donc, question que je posais, est-ce que c'est éminemment plus cher de faire des installations qui résistent au réchauffement climatique ?
Pour les installations neuves, non, mais c'est vrai que pour les installations anciennes, il y a beaucoup de travail. Le réseau de transport d'électricité en France a été construit après-guerre, puis dans les années 80. Ça commence à vieillir, et c'est vrai qu'il faut que on transforme un certain nombre de lignes électriques pour qu'elles résistent mieux au chaud. Mmh. Pour nous, l'impact du changement climatique, c'est les bulles de chaud avec une absence de vent, et c'est vrai que ça justifie beaucoup de nouveaux travaux. Je vous rappelle que le gouvernement a lancé un plan résilience pour que l'ensemble des grandes infrastructures critiques comme la nôtre puissent se projeter dans un monde à 2100 à plus 4 degrés sur le transport d'électricité, ça joue.
Et est-ce que c'est ça le grand coup, Monsieur Pietchagic, ou est-ce que c'est de raccorder les nouvelles centrales, les nouveaux EPR, les nouveaux systèmes éoliens en mer ? Qu'est-ce qui coûte le plus cher, en fait ?
Cet ordre de grandeur, il est soumis à la consultation, donc on verra bien ce qui en sort. Si on s'en tient à cet ordre de grandeur sur 15 ans, il y a trois gros tiers, si vous voulez. Le premier gros tiers, c'est raccorder les nouvelles consommations et les nouvelles productions. Vous l'avez dit, le PR2, les renouvelables offshore. Il y a un deuxième gros tiers, c'est transformer la colonne vertébrale électrique française, donc c'est les grandes lignes qui traversent le pays. Et le troisième grand tiers, c'est rendre ce réseau plus moderne et plus résilient pour supporter le changement climatique. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de trois tiers avant qu'on ait fait cet exercice de priorisation.
Eh bien, écoutez, on attend l'exercice de priorisation pour voir si la facture reste au même endroit. Xavier Piechazik, vous êtes le président du directoire de RTE. Merci beaucoup.
L'actualité ce soir, c'est aussi Cyril Hanouna qui dénonce un acharnement. L'animateur de C8 était entendu cet après-midi par une commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Les députés planchent sur l'attribution des fréquences de la TNT. Hier, ils avaient auditionné Vincent Bolloré, le patron du groupe Canal+. Bonsoir Alexandra Hakoun.
Bonsoir.
Vous avez suivi cette nouvelle audition tout à l'heure, où il a été beaucoup question des sanctions infligées à Touche pas à mon poste au cours des dernières années.
23, très exactement, comme l'ont rappelé les députés. Des sanctions que Cyril Hanouna, poli et discipliné cet après-midi, a tout de suite tenté de minimiser.
Les faits pour lesquels on est ici aujourd'hui représentent 0,12% de l'antenne. Donc bon, ça aurait pas dû se passer pour certains d'entre eux, mais pour une émission qui est en direct tous les jours et qui a fait 5000 heures d'antenne, je trouve qu'on s'en sort bien.
Idem pour les fake news, très peu en fait d'après lui, une tous les 10 ans. L'incident avec Louis Boyard, les insultes aux députés LFI qui lui ont valu 3,5 millions d'euros de sanctions. Oui, il regrette, mais il s'est senti trahi par un ami, avec pour résultat une sanction disproportionnée selon lui, preuve d'un acharnement contre sa personne et son émission.
Je dérange, je le sais. Vous vous rendez compte, 2 millions de téléspectateurs tous les soirs. Je pense qu'il y a vraiment une forme de lobby qui fait qu'aujourd'hui, des gens veulent me faire sortir du paysage audiovisuel parce que je dis des choses que personne ne dit aussi à l'antenne.
Une position victimaire qu'il a beaucoup tenue pendant ces 2h30 d'audition où les députés ne sont pas vraiment parvenus à le mettre en difficulté, même sur un manque supposé de pluralisme.
Pour moi, dire « je ne reçois pas telle ou telle personne », c'est du mépris. J'essaie de respecter tout le monde et j'essaie d'inviter toutes les personnes sur le plateau et de respecter tous les partis politiques et toutes les idées.
Donnant même les temps d'antenne pour chaque parti en 2022, et le RN n'a pas été le plus reçu. Vincent Bolloré, il me laisse une liberté totale, a assuré l'animateur, qui ne s'interdit qu'un sujet dans ses émissions, la pédophilie, lui qui y pensait toujours en père de famille.
Alexandra Hakoun, spécialiste média à la rédaction de France Inter. Toujours dans le secteur des médias, cette fois ici à Radio France, le journaliste de France Info, Jean-François Aquili, a été suspendu à titre conservatoire. Selon le journal Le Monde, l'éditorialiste aurait collaboré à l'écriture d'un livre de Jordan Bardella. Cette privation d'antenne effective dès aujourd'hui doit durer le temps de clarifier la situation, dit la direction de France Info. Le président du Rassemblement National dénonce lui des méthodes, je cite, dignes des pires régimes qui font honte à la démocratie.
Une nuit de la solidarité pour comptabiliser le nombre de sans-abri.
Oui, c'est l'initiative menée ce soir par la ville de Lyon, comme l'a fait par exemple Paris il y a quelques semaines, pour sensibiliser les citoyens, pour mieux comprendre les besoins. Car le nombre de personnes sans domicile fixe est en hausse en France. Plus de 330 000 selon la Fondation Abbé Pierre. Et la métropole lyonnaise, Mathilde Imberti, n'échappe pas à cette tendance.
Pas moins de 14 000 personnes attendent une place d'hébergement dans le Rhône, selon le SAMU social. Quelques centaines de sans-abri sont recensés lors de chaque nuit de la solidarité. Mais cette opération vise avant tout à sensibiliser les citoyens, un phénomène qui évolue. Céline Devinois de l'association Entourage.
L'année dernière, pendant la nuit de la solidarité qu'on a réalisée, 300 ou 400, pas plus, de personnes sans-abri ont été recensées. Et en fait, ça montre aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas visibles dans l'espace public, mais qui en fait sont sans domicile fixe. Les personnes qui sont dans leur voiture, qui dorment en squat, qui sont hébergés dans des halls d'immeubles ou qui sont beaucoup plus cachés.
Et à Lyon, des familles entières sont sans solution. La ville ouvre des gymnases au coup par coup et des citoyens qui ne veulent pas laisser des enfants dormir dehors se relaient pour laisser ouvertes des écoles. Ainsi, une ancienne école, l'école Montel, s'est transformée en centre d'hébergement d'urgence depuis la mi-janvier. Juliette Murtin, mère d'élèves et bénévole au sein du collectif Jamais sans toi.
Pour nous, la nuit de la solidarité, malheureusement, c'est toutes les nuits. Rien qu'ici, dans l'école Montel, ça fait 63 nuits qu'ils dorment ici. Rien que sur Lyon, même, on a 148 enfants qui sont dehors, c'est-à-dire 9 fois plus qu'il y a 2 ans à la même période.
Lyon a, comme 4 autres grandes villes, poursuivi l'État devant la justice administrative pour dénoncer ses carences en matière d'hébergement d'urgence. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Les syndicats enseignants de Seine-Saint-Denis reçus demain au ministère de l'Éducation, ceux qui l'annoncent et qui s'en félicitent. Depuis plusieurs semaines, enseignants et élèves du département se mobilisent contre le manque de moyens et la vétusté de leurs établissements. Des températures plutôt douces, mais beaucoup de pluie, voilà à quoi a ressemblé le mois de février dans une grande partie de la France. Une bonne nouvelle pour les nappes phréatiques, un peu plus remplies que l'année dernière à la même période. Mais une mauvaise nouvelle pour les fraises du Périgord qui n'ont pas vraiment aimé les conditions météo de ces dernières semaines et qui sont même, Lisa Guinic, même en retard.
Les premières fraises à la mi-mars, Alain, le producteur, a le meilleur moyen mnémotechnique pour prouver qu'elles sont de sortie d'ordinaire.
Ma fille, elle va avoir 18 ans dimanche. D'habitude, depuis 18 ans, tous les 17 mars, je lui trouve une fraise ou deux, ou une barquette, ou plusieurs. Et ben, c'est la première fois qu'on ne va pas trouver une fraise.
Sous la serre, Alain se penche et cherche bien.
Il y a quelques-unes qui commencent à blanchir.
À cette période, il ne devrait y avoir que des grosses fraises blanches en train de rougir. Et pour expliquer ce décalage, il ne faut pas aller chercher très loin.
Ben, ça vient du froid, il manque de lumière, hein, tout simplement. En plus, nous, on avait refait tout le champ là, au mois d'octobre, il s'est mis à pleuvoir. Les serres n'étaient pas posées, on a juste eu le temps de poser les films au sol. Et après, on a galéré pour amener toutes les structures par-dessus. Ça fait que la pluie a refroidi les terres. C'est du sol, ça. Ça n'a pas eu le temps de se réchauffer, quoi.
Plus de 30 ans qu'Alain produit des fraises, de la Garriguette à la Charlotte, il n'a jamais vu ça.
Vous voyez, les paillages sont noirs pour absorber les UV, pour réchauffer le sol. Normalement, dès qu'il y a du soleil, même en hiver, avec les bâches et tout, ça arrive à faire chauffer. Sauf que là, ça n'a jamais marché, quoi.
Pour la première fois, Alain va vraiment devoir attendre le printemps. Les premières fraises vont rougir dans 2 semaines. Et pour sa filleule, pas de barquette cette année, mais du chocolat.
Voilà, il faudra encore manger des pommes, donc, pendant quelques semaines. Reportage ciné, signé Lisa Guinic de France Bleu Périgord pour France Inter.
Céline Aslo, merci beaucoup. À tout de suite, vous passerez sous les radars dans un peu plus d'un quart d'heure. Échauffez-vous, tiens. Allez, un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Elodie Calac, bonsoir. Le retour de la pluie alors?
Oui, déjà, ce soir et cette nuit, elle glisse du nord-ouest vers l'Aquitaine, le bassin parisien et les Ardennes avec du vent. Demain matin, ce sera parfois pluvieux de la Vendée et du nord de la Nouvelle-Aquitaine vers les frontières du nord et du nord-est. Ça deviendra plus instable l'après-midi avec des averses parfois orageuses et du vent. De la Bretagne au Pas-de-Calais, des averses dès le matin avec plus d'éclaircies quand même l'après-midi sur le nord de la Bretagne et le Cotentin. Même chose sur le sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées. Sur le nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes, en revanche, les éclaircies s'effaceront au profit des averses. Et puis autour de la Méditerranée, le soleil sera au rendez-vous.
Et il fera très doux.
Oui, 7 à 12 degrés le matin. L'après-midi, quelques degrés de moins qu'aujourd'hui, mais encore 13 à 17 degrés au nord, 16 à 21 au sud. On a eu 23 degrés cet après-midi à Dax.
Elodie Calac, merci beaucoup. Vous revenez après le journal de 19h.